Et pour une heure de sous-marin tout au fond de l'eau, comme tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 19h à 20h, une heure d'actu qu'elle touche à la politique, à la vie étudiante ou associative, à l'économie, au sport ou à la culture. Et pour m'accompagner pendant toute cette heure, salut Rémi.
Salut, salut.
Toujours fidèle au poste. En fin d'émission, vous retrouverez l'agenda de votre soirée et bien sûr la traditionnelle bulle sonore. Tout le monde est à son poste, c'est parti.
Aller à l'étranger est maintenant une des conditions des vacances. Un train, un bateau, encore un train, et nous sommes à Londres, curieux de rencontrer tous ces jeunes Français décidés à apprendre l'anglais coûte que coûte. Des centaines d'organisations leur proposent les vacances les plus diverses. Écoles, échanges, camping, travail au pair. Ils choisissent plus souvent selon leur bourse que leur goût.
C'est la première fois que vous venez en Angleterre ?
Oh oui, la première.
La première, vous savez parler anglais ?
L'anglais de classe, quoi.
L'anglais de classe. Qu'est-ce que vous savez dire ? Donnez-moi un exemple. Oh. Faites-moi une phrase. Dites-moi, j'ai fait un beau voyage aujourd'hui.
I made a good travel.
I made a good travel, me too. Merci Lina, c'est toujours merveilleux ces petites odeurs de poussière. Mais voilà, aujourd'hui, déjà on ne dit plus anglais de classe, hein. Et surtout, aujourd'hui, il y a d'autres façons de voyager que pour partir en vacances. Il existe le volontariat. En France, c'est le service civique volontaire. Mais dès que l'on sort du territoire, il existe plein de manières d'être volontaire. Pour y voir plus clair dans cette forêt de sigles, nous avons passé un coup de fil à Virginie Brouhan, de la direction départementale de la cohésion sociale du 49. Et elle nous a tout expliqué. Bonjour Virginie Brouhan, vous êtes conseillère d'éducation populaire et de la jeunesse à la direction départementale de la cohésion sociale de Maine-et-Loire. C'est bien ça ?
Là. Bonjour.
Dans cette émission, on va évoquer les moyens de mobilité internationale sous la forme du volontariat. Mm-hmm. Peut-être que dans un premier temps, on peut distinguer le concept de volontaire et de bénévole.
Alors, c'est vrai que souvent on parle de volontariat alors qu'il s'agit en fait de bénévolat. C'est le cas de jeunes gens qui s'en vont à l'étranger pour faire des missions dans certaines associations dans d'autres pays, mais qui n'ont pas le statut de volontaire qui donne un certain nombre de droits et de garanties. Et à l'inverse, donc le statut de volontaire en France porte un cadre légal, que ce soit le volontariat français comme le service civique, mais aussi bien le service volontaire européen ou le VSI, qui est donc le volontariat de solidarité internationale, le VIE volontariat en entreprise et le VIA volontariat international en administration.
Alors, on va justement essayer de détailler ces différentes modalités. Mm-hmm. D'abord, peut-être le service volontaire européen, SVE, voilà. Qui fait partie du programme Erasmus+, le nouveau programme européen.
Donc, c'est vrai, effectivement, c'est celui qu'on maîtrise le mieux, nous, en tant que service État DDCS, puisqu'on est relais au niveau départemental pour informer sur le nouveau programme Erasmus+, volet jeunesse, dont le SVE est l'une des actions phares. Donc le service volontaire européen, donc ça s'adresse aux jeunes de 17 à 30 ans qui souhaitent partir pour une mission à l'étranger, donc en Europe, mais pas que, ça peut être aussi dans d'autres pays hors Europe, c'est possible, sur des périodes donc de 2 à 12 mois et dans un cadre, dans une structure à but non lucratif, donc comme les associations chez nous en France, donc les organisations, où ils peuvent effectuer des missions dans le champ ça peut être environnemental, culturel, de l'éducation, c'est vraiment extrêmement large.
Et ce sont des missions qui sont chapeautées dans les pays d'accueil par des structures nationales ou...
Alors en fait, ce qui se passe, c'est que chaque pays, en tout cas de l'UE, donc a une agence nationale qui gère le programme. Et donc chaque agence est chargée d'accréditer les structures. Donc effectivement, les jeunes qui vont dans les autres pays, ils vont forcément dans des structures qui sont accréditées par l'agence nationale, donc qui donnent un certain nombre de garanties. Et notamment un tuteur aussi qui va accompagner le jeune en SVE dans sa mission et dans son insertion locale.
Ça s'adresse, alors vous l'avez dit, vous avez donné la tranche d'âge, mais mm-hmm. à quel type de public ? C'est-à-dire, est-ce que c'est des étudiants qui s'accordent une année sabbatique, une orientation ?
Ouais. Alors contrairement au VSI, dans le cadre du SVE, ça s'adresse vraiment mais à tout le monde, diplômé, non diplômé, avec des bagages universitaires ou non, ça s'adresse vraiment à tous les jeunes. Il n'y a pas nécessité d'avoir une compétence déjà acquise pour aller mener une mission dans un champ spécifique.
Et on peut bénéficier d'une indemnité alors ?
Alors tout à fait. Donc non seulement en fait l'Europe prend en charge tout ce qui relève donc des frais d'hébergement, des frais de bouche, les frais de déplacement pour aller dans le pays, mais les jeunes perçoivent en plus une indemnité mensuelle qui diffère d'un pays à l'autre en fonction du niveau de vie dans le pays.
Est-ce qu'on peut rapprocher ça du service civique volontaire en France ?
Alors en fait, le service civique en France, c'est exactement la même chose, sauf que là, c'est le service civique, c'est l'État français qui le porte. Donc c'est c'est le volet du volontariat en France et c'est l'homologue sur la version européenne, c'est le SVE, oui, tout à fait.
Alors il y a une autre modalité de départ, c'est le VSI.
Le VSI, donc le volontariat de solidarité internationale.
C'est quoi la différence alors avec le SVE?
Alors en fait, c'est vrai que celui-là, donc nous au niveau de nos services, on n'accompagne pas directement là-dessus. Simplement, là, le VSI est plutôt en lien avec des missions dans les pays du Sud, ou les pays dits en voie de développement, et les profils recherchés sont plutôt des profils très spécialisés et ça s'adresse plutôt à déjà des diplômes particuliers et des gens diplômés.
Qui sont plutôt diplômés dans quel secteur ?
Alors, ça dépend en fait de l'ONG, ce qu'elle va le profil de jeune personne qu'elle va rechercher. Donc là, dans le cadre des volontariats des VSI, donc ça s'adresse aux jeunes qui ont au minimum 21 ans et qui souhaitent réaliser donc une mission à l'étranger pour 2 ans maximum. Alors que dans le cas du VSE, on est donc sur 1 année maximum. Et là, c'est vrai que c'est beaucoup plus sélectif en fonction de l'adéquation mission confiée et profil, sachant qu'en général, il y a des forts besoins en jeunes gens plutôt très diplômés.
On est dans une démarche de professionnalisation quand on s'engage en VSI.
Beaucoup le font dans ce sens-là, mais beaucoup d'autres le font pour tout simplement donner de son temps, enfin, comme tous les volontariats en fait, c'est vraiment contribuer aussi, puisqu'ils ne sont pas salariés hein, de la même façon. C'est une petite indemnité qui leur est attribuée.
Est-ce que vous pouvez citer des associations dans lesquelles on peut s'engager en volontariat de solidarité internationale, des exemples ?
Alors là, je ne peux pas vous donner d'exemple, mais par contre, le plus intéressant, je pense, pour les personnes qui seraient intéressées par cela, ça serait d'aller sur le site de France Volontaire, puisque France Volontaire est une plateforme qui, justement, recense tous les volontariats existants et ils ont énormément de partenaires dans plein de pays du monde et ils peuvent mettre en lien, justement, les jeunes pour trouver des volontariats à l'étranger.
D'accord.
Donc c'est francevolontaire.org.
C'est noté. Et enfin, il y a le VIE ou VIA, volontariat international en entreprise ou en administration.
Voilà.
Là, ça s'adresse à qui ?
Alors, donc ça, c'est pas du tout géré non plus hein, par notre service au niveau de la DDCS. Donc, le volontariat international en entreprise, donc ça concerne des missions de 6 à 24 mois au sein d'une entreprise française à l'étranger. Et donc le volontaire doit avoir entre 18 et 28 ans, qui là occupe un emploi d'ordre commercial, technique et scientifique. C'est souvent des accords en fait avec les entreprises qui ont des antennes à l'étranger et qui veulent promouvoir le commerce extérieur. Et donc là on n'est plus dans l'indemnité. Enfin l'indemnité est vraiment très conséquente, c'est plus un salaire.
Et on appelle ça quand même volontariat.
Ouais, tout à fait.
Mais ça peut être considéré comme un emploi à l'étranger.
C'est un peu ça, oui, ouais, tout à fait. Et là, toutes les infos nécessaires sur ceux qui seraient intéressés par cela, c'est sur le site civiweb.com. Donc, c'est civiweb.com.
Il y a aussi, alors vous en parliez en introduction, des associations qui proposent des missions de volontaires à l'étranger. Mm-hmm. Là, on ne bénéficie pas, on a compris, du statut juridique. Pour autant, est-ce que ça ne peut pas être intéressant ?
Alors, quand on est dans un cadre, là, vous voulez dire pas du tout formalisé, via un contrat ou via un vrai statut de volontaire.
Quoi. Voilà, une association.
Alors, c'est vrai qu'il y a plein de jeunes qui souhaitent partir et donner de leur temps à une association. J'ai envie de dire, chacun est tout à fait libre de faire ce qu'il souhaite. Après, il n'y a pas ces garanties-là, contrairement quand on part dans le cadre d'un volontariat plus structuré. Donc, en fonction du goût et de l'appétence qu'on a pour l'aventure, pour plus de surprises, parfois plus de mauvaises surprises, ça dépend. Disons qu'il y a cette part de risque qui est quand même plus conséquente.
Est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut
et
faire partie ?
Et donc, souvent, là, les jeunes gens, on leur demande de payer leur voyage, de payer leur hébergement, de tout payer, en fait. Et ils sont en plus bénévoles dans la structure qui les accueille, quoi.
Oui, et est-ce que là, il y a des points sur lesquels il faut être particulièrement vigilant ?
Eh ben, je dirais, c'est vraiment déjà s'assurer de la structure qui va accueillir sur place. C'est vraiment de pouvoir échanger et d'avoir des contacts assez fréquents avant de partir. S'assurer de l'endroit où vous allez être accueilli, de la mission, en quoi ce n'est pas quelque chose d'un peu tendancieux, j'ai envie de dire. C'est vraiment via les contacts. Et puis, il faut savoir que dans les départements et les régions, il y a quand même des structures qui sont, je pense, sur le Maine-et-Loire, la CASI 49, la coordination des associations de solidarité internationale, qui est une coordination d'associations qui œuvrent avec... dans le champ avec les pays du Sud et qui ont quand même de gros réseaux. Donc c'est vrai que c'est toujours intéressant de rencontrer des personnes qui ont déjà des pratiques de travailler avec des structures à l'étranger, voire via les réseaux si elles les connaissent pas, et puis prendre conseil auprès de celles-ci, quoi. Je pense également à l'association Itinéraire Sud qui est affiliée au réseau Rikimo, qui peut être aussi plein de bons conseils, quoi, avant de partir.
Quel retour vous avez des jeunes qui sont partis comme ça en volontariat à l'étranger ?
Alors nous, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, on gère et on suit vraiment de plus près le programme Erasmus+. Donc c'est plutôt sur les retours des SVE. Ce qu'on peut constater, c'est qu'ils reviennent vraiment très ouverts, avec un certain nombre de compétences acquises, avec aussi un sens de l'adaptation vraiment démultiplié, et souvent ils repartent à l'étranger dans un second temps, quoi.
Ils ont pris
pour aller travailler. Ouais, alors ça, tout à fait. En général, ils restent pas longtemps en France. Ouais. Pour la plupart. Hein.
Et est-ce qu'on peut encore s'inscrire pour la rentrée prochaine ou c'est trop court là ?
Alors là, pour les SVE, en fait, c'est tout au fil. Enfin, il n'y a jamais de date butoir. Simplement savoir qu'il faut quand même du temps pour un peu mûrir le projet. Donc là, il n'est pas trop tard. Et dans le département, la structure qui est accréditée donc pour faire partir les jeunes en SVE. Et qui accompagne aussi ces derniers, c'est le Relais Europe Jeunesse de Maine-et-Loire, de la Fédération Régionale Famille Rurale. Et donc pareil, là, je vous donne le site, paysdelaloire@famillerurale.org. Et donc ils organisent des réunions d'infos collectives très régulièrement, où ils expliquent tout aux jeunes qui veulent partir, le SVE, ce que c'est, comment ça se passe, les différentes étapes. Donc l'idéal, effectivement, c'est de participer à l'une de ces réunions.
Merci beaucoup Virginie Brouin pour
vos
conseils.
C'était avec plaisir.
Voilà, maintenant on y voit un petit peu plus clair. On va continuer le sous-marin sur ce thème du volontariat à l'international. Mais avant, on écoute Gabriel Garzón Montano, Keep on Running.
Wasting away, swear that we're having a good time. We spend the days joking, and love to complain that there's no time. And so we're planning and planning, but only to live in the meantime. Climbing the ladder to be not whatever was so fine, was so fine, so fine, was so fine, so fine, was so fine. Keep on, keep running. Big loaf, go home with the crumbs and toast.
care what it is, gotta get mine. Try to stand above the others, so quick to forget that we were the same child. So fine, so fine, so fine, we're so fine. Keep on, keep running.
Vous êtes bien dans le sous-marin sur Radio Campus Angers et ce soir on parle du volontariat à l'étranger. Vous avez entendu dans une première partie Virginie Brohan évoquer les différentes formes de volontariat à l'étranger, parmi lesquelles une forme plus atypique, les associations qui proposent en échange d'une cotisation de partir à l'étranger. Nous avons voulu savoir comment cela fonctionnait et avons donc téléphoné à Frédéric Jégu qui travaille à l'association Service Volontaire International. Elle explique ici les modalités de volontariat au sein de cette structure franco-belge et tient à faire le distinguo avec ce qu'elle qualifie de volontourisme ou de tourisme humanitaire. Bonjour Frédéric Jégu.
Bonjour.
Vous travaillez au Service Volontaire International, une association belge et française qui s'est créée à partir d'une ONG vietnamienne. C'est effectivement international. Mais comme son nom ne l'indique pas, le Service Volontaire International n'est pas institutionnel, c'est une association.
Oui, c'est bien ça. Voilà, nous sommes une association à but non lucratif et nous permettons aux jeunes, mais aussi en fait nous permettons aux personnes à partir de 16 ans jusqu'à tant qu'ils peuvent et tant qu'ils veulent s'investir à l'étranger, de partir à l'étranger, non pas en humanitaire, mais en tant que volontaire dans des associations locales.
Donc, c'est quoi c'est-à-dire, je vous interromps, c'est quoi la différence entre volontaire et humanitaire?
Alors, en fait, humanitaire, c'est partir dans des situations de crise. Par exemple, en tant que médecin sur place, quand il y a une crise, en tant que je sais pas journaliste reporter pour aller filmer à une région chaude où il se passe des choses en situation de crise. Donc nous, on n'envoie pas des gens pour gérer des situations de crise. C'est pas du tout ça. Le volontariat, ça va être des projets, par exemple, autour du social, de l'environnement, travailler avec les enfants, le bâtiment, par exemple, reconstruire des choses. Enfin, vraiment travailler avec la vie quotidienne des gens. vraiment au jour le jour. Donc ils sont en immersion totale dans une association locale. Ils sont envoyés aussi avec plusieurs volontaires du monde entier. Donc vous pouvez très bien vous retrouver en chantier humanitaire, en chantier de volontariat avec des Espagnols, des Russes, des Italiens, des gens du monde entier. Et vous allez travailler ensemble avec, par exemple, si vous partez en Inde, vous allez vous retrouver avec des Hindous et travailler au jour le jour avec eux dans leur projet. Donc voilà. Donc en fait, nous, on est une association de coordination qui met en contact les gens qui veulent partir avec des associations sur place où ils peuvent partir de 15 jours, donc dans des work camps, ou plusieurs mois ou encore une année. Donc il y a des projets à court terme ou long terme.
Et ça ne suffisait pas le service volontaire européen ou le volontariat de solidarité internationale ?
Ben, en fait, c'est pas du tout la même chose parce que ça dépend donc déjà du gouvernement. Donc les gens partent là-bas, il y a une limite d'âge en fait, il me semble que c'est 25 ans, et alors que nous, il n'y a pas de limite d'âge. Et les gens là-bas, ils vont partir et ils vont recevoir un salaire, par exemple, sur place. Enfin, ça dépend, par exemple, les services civiques pour la France, les services volontaires européens. Enfin, c'est vraiment quelque chose de différent, donc, qu'on propose. C'est du volontariat, mais la personne, c'est du volontariat auto-financé, en fait. Donc, la personne doit se payer son billet d'avion. On ne paye pas le billet d'avion des volontaires.
Et elle doit se payer le billet d'avion. Elle doit aussi payer les frais d'inscription à votre association, quand même.
Oui, voilà, c'est ça. Donc, il y a des frais d'inscription. Donc, les frais d'inscription sont pour les projets en Europe de 80 euros et pour les projets à l'international de 200 euros. Et ça permet aux personnes de pouvoir repartir. Et il y a aussi des frais à donner à la population sur place. Donc, ils peuvent varier. Par exemple, pour les pays les plus chers comme le Costa Rica, ça va être de 300 euros. Mais pour les pays comme l'Inde, par exemple, ça va être 250 euros. Et donc là, le volontaire arrive sur place, il donne ses frais à la population sur place et il sera pris en charge au niveau du logement, de la nourriture et du transport aussi sur place. Et voilà, il vivra au jour le jour avec les personnes et ça contribue aussi à aider dans les projets de l'association locale.
Mais c'est pas un petit peu gênant quand même de devoir à la fois s'inscrire, donc payer son inscription au service volontaire international, payer son billet d'avion, verser un peu d'argent à l'association sur place et en plus donner de son temps gratuitement. C'est de la main d'œuvre à faible coût.
C'est pas vraiment de la main d'œuvre à faible coût. En fait, c'est du volontariat. Donc les personnes qui vont sur place ont envie d'aider, ont envie de s'investir. Et bien sûr, enfin, je vois pas comment on peut, en étant une association à but non lucratif, réduire ses coûts vu qu'on ne peut pas payer le billet d'avion à nos volontaires, on ne peut pas leur payer tout le logement sur place, etc. Enfin, les personnes en fait s'autofinancent, comme j'ai dit plus précédemment. C'est du volontariat autofinancé. Donc les personnes qui souhaitent partir à l'étranger s'autofinancent et donc assurent le transport, etc. Il y a aussi, en fait, nous, on est une association, il y a aussi des entreprises. En fait, je voulais parler de ça plus tard, mais je vais en parler maintenant vu que vous l'abordez. C'est le volant tourisme, donc c'est... En ce moment, depuis un petit moment déjà, il y a des entreprises en fait qui se font passer comme des entreprises qui prônent le volontariat ou l'humanitaire, mais en fait, elles assurent aux personnes de partir en tant que volontaire sur place ou aller gérer une crise en humanitaire. Et en fait, les personnes doivent, pour s'inscrire, payer par exemple 2000 euros sans billet d'avion, donc ce qui reviendrait par exemple, je ne sais pas, pour l'Inde à 2500 euros. Et sur place, en fait, il y a seulement 150 euros qui va revenir à l'asso sur place et le reste va revenir à l'entreprise qui propose ces services. Donc voilà, donc pour contrer un peu à ça, il y a le service volontaire international qui, elle, notre association ne fait pas de profit. Mais il y a aussi d'autres associations qui proposent ça pour les jeunes qui veulent s'investir à l'étranger. Comme vous parlez du service volontaire européen, il y a vraiment d'autres choses qui existent. Mais il faut savoir que partir en tant que volontaire, c'est aussi un coût, bien sûr, et c'est pas donné à tout le monde. Et malheureusement, par exemple, pour nos volontaires qui veulent partir avec nous, il n'y a pas de bourse qui existe pour les aider ou d'aide de prise en charge. Donc, voilà.
Et les gens qui s'inscrivent au service volontaire international, c'est quel profil en général de personnes ?
Alors là, je pourrais vraiment pas vous donner des profils de personnes. On a des personnes de tout type. On a des personnes qui veulent faire une année de césure après leur bac. On a des personnes qui ont une famille et qui souhaitent partir de leur côté durant les vacances et investir dans un chantier humanitaire. On a, comme je vous ai dit précédemment, on a des retraités. On a aussi des très jeunes de 16 ans qui veulent partir, mais plus souvent, ils partent en Europe quand même. Il y a vraiment toutes sortes de profils. Et il faut savoir aussi qu'il y a des... En fait, on propose de partir pour des individuels, donc des personnes qui veulent partir seules ou avec des amis. Mais il y a aussi pour des groupes. Donc ça peut être un groupe de scouts, ça peut être un très gros groupe d'amis qui veulent partir ensemble sur un projet. Enfin, il n'y a vraiment aucun profil, en fait. Comme je vous dis, les personnes qu'on reçoit et qu'on envoie sont surtout des personnes motivées.
Et qu'est-ce qu'on a comme type de projet quand on part en volontariat international avec votre association?
Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des projets, donc ça peut être sur le social, l'environnemental, le culturel, ou encore des projets éducatifs, des projets de construction, si vous voulez des exemples. Ça peut être un projet en Islande, ça va être faire des photos sur l'Islande. Ça peut être un projet en Inde, organiser un festival autour du théâtre avec les enfants. Ça peut être aussi aller avec les femmes dans les rivières, les aider. Ça peut être, par exemple, aider à la reconstruction de certaines ruines ou à veiller à ce qu'elles soient propres. Ça peut être aider des enfants dans les écoles. Enfin, c'est vraiment de tout type, en fait. Ça peut être aussi, parce qu'en fait, on envoie des volontaires, mais on en reçoit aussi. En ce moment, à Bruxelles, il y a le Festival international du film fantastique. Et il y a des Vietnamiens qui sont là, des Russes et des Allemands. Et ils sont là donc pour participer à l'organisation d'un festival, donc ça peut être très bien ça. On propose aussi aux gens de venir pour le festival de Dour ou Ingrock et de s'investir donc en tant que team leader dans un festival et de travailler en tant que bénévole, en fait. Donc c'est vraiment plein de domaines variés et différents. Ça peut être l'environnement, le social, le bâtiment, ça peut être énormément de choses, en fait.
Et j'imagine que vous êtes tributaire des conflits géopolitiques qui ont lieu actuellement.
On connaît personnellement chacune des associations locales, donc on a eu un contact avec eux, ou par exemple il y a des gens de notre association qui vont en tant qu'exploration, par exemple en Amérique latine, et on privilégie tout le temps les associations locales sur place. On n'aime pas du tout ce qui est les grandes associations un peu usines à volontaires, comme je vous parlais tout à l'heure avec les problèmes de volontourisme. Et bien sûr, quand il y a des pays, je dirais chauds, où il y a des problèmes, des conflits sociopolitiques, on n'envoie pas nos volontaires, bien sûr. On prend des précautions.
Merci beaucoup Frédéric Jégu d'avoir été au micro de Radio Campus Angers.
Merci à vous, c'était un plaisir.
Juste après la pause musicale, vous entendrez le témoignage de Mathieu, 18 ans, qui est parti avec cette association Service Volontaire International. Mais pour l'heure, comme c'est encore le printemps, on écoute François and the Atlas Mountains, Bois.
Je n'oserais pas, non, je n'oserais plus venir te chercher, chercher de ton feu. Non, je n'oserais pas, non, je n'oserais plus venir te chercher, brûler de ton bois. Quand j'attends ici, mon cœur refroidit. Je reste chez moi, j'attends et je bois. Je brûle mon bois, seulement de mon bois. Mon bois ne brûle plus, mon bois ne brûle plus si bien. Mon bois ne brûle plus, mon bois ne brûle, mon bois ne brûle plus, mon bois ne brûle, mon bois ne brûle plus, mon bois ne brûle, mon bois ne brûle plus, mon bois ne brûle, mon bois ne brûle plus, mon bois ne brûle, mon bois ne brûle plus, mon bois ne brûle, mon bois ne brûle plus, mon bois ne brûle, mon bois ne brûle plus. Non, je n'irai pas, non, je n'irai plus venir te chercher, chercher de ton bois. Je reste chez moi, j'attends mais j'ai froid. Je brûle mon bois, seulement de mon bois. Peut-être voudras-tu t'approcher un peu. Peut-être voudras-tu répandre le feu. Mais je n'irai pas, non, je n'irai plus venir te chercher, mon bois ne brûle plus si bien. Mon bois ne brûle plus, mon bois ne brûle, mon bois ne brûle plus. Mon bois ne brûle, mon bois ne brûle plus. Mon bois ne brûle, mon bois ne brûle plus. Mon bois ne brûle, mon bois ne brûle plus. Mon bois ne brûle, mon bois ne brûle plus. Mon bois ne brûle plus, mon bois ne brûle plus. Mon bois ne brûle plus, mon bois ne brûle plus. Heureusement qu'il y a la musique magique, l'amour à des cieux. Heureusement qu'il y a la musique magique, l'amour à des cieux. Heureusement qu'il y a la musique magique, l'amour à des cieux. Heureusement qu'il y a la musique magique, l'amour à des cieux. We'll be right back. que l'amour a déçu. Heureusement qu'il y a la musique magique, l'amour a déçu. Heureusement qu'il y a la musique magique, l'amour a déçu.
Écoutez le sous-marin sur Radio Campus Angers. On parle de volontariat international et on a rencontré Mathieu qui a décidé de partir en Russie à 17 ans pendant 2 semaines et avec l'association Service Volontaire International, il raconte son expérience. Dans le sous-marin sur Radio Campus Angers, nous recevons Mathieu Sueur. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez 18 ans, vous êtes en première ES à Angers et en août dernier, vous êtes parti 2 semaines en Russie en service volontaire international avec l'association Service Volontaire International.
Tout à fait.
Pourquoi avoir choisi cette structure-là plutôt qu'un service volontaire européen comme il en existe ou autre chose, d'ailleurs un autre format?
J'ai trouvé un peu par hasard en cherchant des services de volontariat et j'ai pris l'un des premiers sites qui venait. J'ai regardé sur différents forums et ça m'a intéressé. En plus, c'était accessible du coup, c'était en Belgique. Ils avaient des antennes en France, donc pour moi c'était parfait quoi.
Pourquoi avoir voulu partir cet été pendant votre parcours de lycéen et en plus si jeune, parce que vous aviez peut-être pas encore 18 ans?
Non, j'avais 17 ans à l'époque, c'était donc en août dernier. J'étais très intéressé par la Russie parce que du coup je suis parti en Hongrie il y a quelques années, j'ai rencontré des gens, des Russes, et j'avais envie de les revoir. Et j'avais envie en même temps de voyager, de beaucoup voyager, et pourquoi pas commencer par un pays où je connaissais des gens, donc la Russie. Même si c'est pas très réputé en France, moi ça m'avait intéressé, je m'étais intéressé à leur histoire, etc. Donc...
Et pourquoi un projet de volontariat et pas juste des vacances par exemple?
Je sais pas trop en fait, j'avais envie de participer aussi, de faire un truc qui soit bénéfique.
Alors le projet en l'occurrence c'était quoi?
Donc il s'agissait d'une maison en fait à rénover un peu pour permettre à d'autres volontaires de venir l'année d'après, anticiper leur séjour.
Et vous étiez combien sur place?
On était 10. Il y avait de toutes les nationalités, espagnole, française, ukrainienne, russe.
Donc pendant, vous disiez que vous aviez retrouvé des volontaires de toutes les nationalités. Le contact se passe bien? C'est des gens qui viennent avec des organismes différents? Comment ça se passe?
En fait, il y avait deux Français, donc en plus de moi, qui étaient de l'association de volontariat française. mais donc, on s'est un peu trouvé, quoi. Enfin, je ne me doutais pas qu'il y avait des Français en Russie, surtout dans, là-bas. Et les autres volontaires, je ne me suis pas trop intéressé comment ils étaient venus. Mais du coup, en fait, tous les gens étaient assez, assez solidaires, assez ouverts d'esprit. Le contact, il s'est fait assez rapidement, très simplement. Et,
Quel bilan vous tirez de ces deux semaines en Russie? Quels apports ça vous a donné? Est-ce que ça vous a changé?
Oui. En fait, j'apprends l'anglais. Donc, ça m'a permis aussi de développer un anglais plutôt passable, enfin, qui permet de se débrouiller dans un univers différent, quoi. Dans un pays différent. Ça m'a permis aussi de m'ouvrir l'esprit. Parce que du coup, comme c'est dans un autre pays, on connaît pas forcément, on n'a pas de repères, on n'a plus de repères. Donc on demande conseil aux gens sur place, on demande de l'aide. Et les gens, en fait, ça permet de découvrir aussi des mentalités différentes de France. En France, on est assez fermé. Là-bas, ils sont très ouverts, quoi. Si vous avez besoin d'aide, ils sont prêts à tout pour vous aider. Donc ça m'a permis de découvrir ce genre de personnalité et donc de m'intéresser encore plus au voyage et de me dire bah ouais, j'aime le voyage donc j'ai envie de recommencer.
Vous pensez que ce service volontaire international il va vous apporter un plus dans votre CV?
Oui parce que ça permet du coup de montrer sur le CV que vous êtes quelqu'un d'ouvert d'esprit et donc moi par exemple je m'intéresse surtout au marketing étranger, donc pour faire un cursus de LEA. Donc un service de volontariat international, quoi, ça permet d'ouvrir certaines portes et de faciliter les choses.
Et est-ce que vous allez repartir là, avec le service volontaire international?
J'aimerais bien, mais j'hésite encore entre repartir donc avec le SVI ou bien partir tout simplement en vacances. Rejoindre mes amis donc que je me suis fait aussi d'ailleurs là-bas.
Merci beaucoup Mathieu Sueur d'avoir été sur Radio Campus Angers.
Pas de problème.
Voilà, on espère vous avoir fait voir un peu plus clair dans ce labyrinthe de programmes de volontariat. Tout de suite, on écoute The Bewitched Hands Out to Cry. Le jeudi avec Rémi, c'est Économie dans le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Il est aujourd'hui normal de considérer que les inégalités, notamment économiques, c'est pas bien. Mais il faudrait peut-être se pencher sur le pourquoi de la chose, au lieu de répéter à l'infini cette affirmation. Pourquoi donc ? Pourquoi avoir mis en place un impôt progressif sur le revenu ? Pourquoi mettons en place des politiques redistributives comme les bourses, les allocs ou le RSA ? Parce que la lutte contre les inégalités n'est pas seulement une question d'ordre moral. Une société moins inégalitaire, c'est aussi une économie qui se porte mieux et des citoyens qui se sentent plus impliqués dans la vie politique de leur pays. Tout ça, on peut l'apprendre dans le livre de Joseph Stiglitz qui s'intitule « Le prix de l'inégalité ». D'abord, c'est quoi les inégalités économiques ? C'est des très riches et des très pauvres, et peu de gens au milieu. Et surtout, c'est peu efficace d'un point de vue économique. Bah oui, les très pauvres, ils vont pas consommer beaucoup. Ils ne vont donc pas faire tourner les industries, l'État ou le petit commerce. En plus, ils se sentent moins en prise directe avec le système politique à qui ils ne font plus confiance et dont ils n'espèrent plus rien. L'abstention augmente. Si votre situation est précaire, eh bien vous allez avoir plus de mal à vous engager dans un syndicat, à vous mobiliser pour une action ou à adhérer à une association. Là aussi, le plein exercice de la citoyenneté s'en trouve dégradé. Mais, confère la Russie, ou pire, certains États africains gangrénés par de petites oligarchies qui tiennent tout, avoir plein de très riches dans son pays, c'est pas génial non plus. C'est pas parce que vous gagnez 100 fois plus que vous allez vous précipiter au supermarché pour acheter 100 litres d'huile, 600 briques de lait ou 2 tonnes de lessive. Votre argent, vous l'épargnez, ou au pire, vous achetez des yachts. Mais là aussi, passer 20 yachts, vous commencez à saturer. Donc vous épargnez beaucoup plus, parfois pour investir, mais bien souvent aussi pour que ça rapporte. Et là, bah, vous sortez aussi de l'argent du circuit économique qui tourne moins bien. Le rôle de l'État se trouve aussi affecté par la hausse du revenu des très riches. Il dispose ainsi de moyens de pression beaucoup plus forts sur les décideurs politiques. Par exemple, on peut citer les États-Unis comme magnifique démocratie, où chaque star du showbiz, grand patron, cadre dirigeant de grande banque, peut financer la campagne d'un des candidats, ou pire, devenir lui-même homme ou femme politique de premier plan. C'est d'ailleurs pour se prémunir d'un tel système que l'ENA, la fameuse École Nationale d'Administration, a été fondée à la sortie de la guerre. Et vous savez par qui ?
Maurice Thorez.
Maurice Thorez, en effet, le secrétaire général du Parti communiste de l'époque. Marrant, non ? L'élite n'est ainsi pas issue des grandes entreprises privées, et les risques de conflits d'intérêts sont diminués. Bref, revenons aux inégalités. Certains économistes américains considèrent que c'est en grande partie à cause d'elles que la crise de 2008 a éclaté, en provoquant une augmentation de l'importance des marchés financiers dans le pays.
Revenons à la définition, Rémi, qu'est-ce qu'un marché financier ?
Très bonne question. Eh bien, c'est un lieu fictif où se rencontrent offres et demandes de titres financiers. Et là, je vous demande de vous concentrer, d'arrêter d'éplucher vos pommes de terre ou je sais pas quoi, et de m'écouter. Les très riches vont épargner. Ils vont donc placer leur fortune dans des titres financiers qui rapportent, ou alors qui sont sûrs, comme les obligations d'État, c'est-à-dire une part de la dette publique que vous achetez et que l'État vous rembourse avec des intérêts. Et c'est parti pour faire fonctionner ce merveilleux système. On offre la possibilité aux Américains très pauvres de devenir propriétaires, en s'endettant. Mais évidemment, comme ils sont pauvres et que l'opération est assez risquée, les taux d'intérêt sur ces produits financiers sont très élevés. Qui va alors prêter à ces très pauvres ? Les très riches, à travers le marché financier. Ils obtiendront ainsi un rendement juteux de leur placement. L'opération est très intéressante et attire de plus en plus de monde, entreprises, banques, etc. La bulle des subprimes est enclenchée. À un moment donné, certains emprunteurs ne peuvent plus rembourser, augmentant le risque d'avoir investi dans ces produits. Les taux d'intérêt montent. D'autres emprunteurs se trouvent acculés. La bulle éclate. Les banques n'ont plus confiance entre elles. Elles ne se prêtent plus de peur de se retrouver avec les produits subprimes sur les bras. Et c'est parti pour 10 ans de crise. Vous en voulez encore ?
Oh oui !
Comme les riches, pour la plupart d'entre eux, pratiquent l'optimisation et l'exil fiscal, les moyens de l'État sont réduits, la dette augmente, et les riches prêtent à l'État. Système magnifique. En plus, comme l'État voit ses ressources s'amenuiser, il peut moins soutenir un système de redistribution performant, une école républicaine ou une lutte contre l'exil fiscal efficace. Et les inégalités se creusent.
Merci Rémi, j'ai tout compris. Avant de vous quitter, voilà l'agenda de votre soirée angevine à 20h15 au 400 coups. Ciné-rencontre autour du film La santé dans l'assiette de Lee Fulkerson pour manger bien et donner faim. Aujourd'hui, c'est aussi l'ouverture du festival de la création universitaire. Un festival très dense qui va durer 8 jours et dont vous pouvez entendre parler en réécoutant le sous-marin de lundi. Et ce soir à 20h30, les étudiants font leur cinéma au programme court-métrage étudiant, illustrations sonores autour de Méliès et projections de cours européens sélectionnés par le jury étudiant du festival Premier Plan en janvier dernier. Ce soir aussi, c'est la Catocalypse, à partir de 21h au Parc des Expositions de Segré. Et Scarlett sera en live au T-Rock à 21h33. Notez aussi qu'au Jacaré, Roots Session by Swabi, c'est dès 22h. Voilà, il est l'heure de débrancher les hydrophones. Vous pouvez réécouter cette émission sur le www.radiocampusangers.com ou en rediff demain, dès 13h sur nos ondes. Tout de suite sur le 103 FM, vous retrouvez Turbulence, l'émission groupe locaux du 103 de Radio Campus Angers. Salut Yann. Salut Yann, est-ce qu'on...
Salut.
Ah ouais, je t'entendais pas. Je te vois, mais je ne t'entends pas.
Excuse-moi.
Alors ce soir dans Turbulence, qui est-ce que vous recevez ?
On reçoit Ahmed Fofana qui sera en concert samedi soir au Chabada Angers pour la soirée Mali Club. Et donc il va nous offrir 30 minutes d'interview et 30 minutes de live comme d'habitude dans Turbulence.
D'accord, donc c'est à 20h dans 10 minutes sur le 103. Merci Yann. On vous laisse avec la bulle sonore. L'équipe de DeLorean a consacré son émission de lundi à l'exotisme. Et figurez-vous qu'à Angers aussi, on peut se targuer d'exotisme. Pour écouter la totalité de l'émission, direction bien sûr le site web du 103 FM. Passez une très bonne soirée sur Radio Campus Angers. Nous, on se retrouve demain à 19h. Allez, bisous.
Ce soir, pour vous parler d'exotisme à Angers, j'ai choisi de vous faire remonter pas mal de siècles en arrière, à la fin du deuxième siècle de notre ère. Pour vous parler du Mitraum de Julio Magius, c'est-à-dire de la ville d'Angers. Déjà, rien que le nom, ça fait exotique.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Eh bien, un Mitraum, c'est un temple, ou plutôt un lieu où certains de nos ancêtres vénéraient le dieu Mitra. Un dieu qui n'est ni romain, ni grec, ni même gaulois, mais un dieu d'origine indo-persane. Et là, on se dit tous, comment un dieu vénéré à plus de 6000 km de là a pu se retrouver à Angers ? Eh bien, son culte a déjà dû passer par Rome avant de remonter progressivement en Gaule. Et comment est-il arrivé à Rome ? Probablement lors d'une campagne menée par Néron en 68-67 avant Jésus-Christ, dans ces lointaines contrées où était pratiqué ce culte. Conquérir, c'est aussi rencontrer de nouvelles cultures, et c'est ce qui s'est passé. Certains légionnaires romains ont été attirés par cette divinité, des ennemis pratiquant le culte de Mitra ont été faits prisonniers, et tout ce petit monde est rentré à Rome. À partir de là, des communautés ont été fondées, des Mitrae, c'est-à-dire le pluriel de Mitraum, ont été construits, et à partir du 1er siècle de notre ère, la croyance a été colportée par des marchands et des soldats jusque dans les régions les plus éloignées de l'Empire romain, et notamment jusqu'à Angers. Mais qu'est-ce que c'est que cette religion ? Eh bien, la religion mitriaque, c'est une religion ouverte à tous, sauf aux femmes. Les communautés qui la pratiquaient pouvaient être aussi bien composées d'élites, d'artisans que parfois même d'esclaves, même s'ils touchaient davantage les élites, il faut le dire. L'une des particularités de cette religion, c'est qu'elle était initiatique, c'est-à-dire que seuls des gens initiés au secret du culte pouvaient y participer. Et donc au final, les communautés étaient assez restreintes, une quinzaine d'hommes en général. Cette religion consistait à vénérer un dieu, mais elle n'était pourtant pas monothéiste, puisque les croyants pouvaient très bien pratiquer d'autres cultes à côté, contrairement au christianisme. Enfin, l'entrée dans la communauté était symbolisée par une sorte de baptême, et les initiés étaient liés entre eux par des pratiques et des rites secrets, comme des banquets ou des sacrifices en l'honneur de Mitra. Tout ça faisait partie du culte qui se déroulait dans un Mitraum, censé figurer la caverne du dieu Mitra. Et du coup, c'est pour ça que les Mitrae, ça fait beaucoup de Mitra, étaient généralement des pièces voûtées, en tout cas plongées dans la pénombre pour créer une atmosphère mystique. Et c'est bien ce qui semblait être à Angers. Le Mitraum a été découvert, vous en avez peut-être entendu parler, je ne sais pas si vous étiez déjà là, lors des fouilles menées en 2010, là où se trouvait l'ancienne clinique Saint-Louis, à peu près entre la gare et le château. Il se trouvait dans les sous-sols d'une domus, c'est-à-dire une maison de la cité, et c'était un espace rectangulaire d'une quinzaine de mètres environ sur 8, donc pas si grand que ça, dont l'aménagement pouvait tout à fait convenir à un culte du dieu Mitra. Les archéologues ont par exemple trouvé la base d'un bas-relief, des fragments de statues, du mobilier et encore de la vaisselle liée à ce culte. Alors celui-ci, comme dans tout l'Empire, a dû se dérouler jusqu'à la fin du 4e siècle ou au début du 5e siècle, jusqu'à ce que l'empereur Théodose interdise les cultes païens, publics et privés, au profit du développement du christianisme. Et donc jusqu'à ce que certains Mitraum, et sûrement celui d'Angers, ne soient violemment détruits. Alors il faut le dire, pour finir, cette découverte exotique était assez extraordinaire, puisque les Mitrae découverts en France peuvent en fait se compter sur les doigts d'une main. Et Angers est pour l'instant le seul trouvé dans le Grand Ouest.
live in a yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine.